Adieu. Radio Libertaire 89.4 et nous sommes au grand soir du mardi, l'émission du groupe Libertaire La Rue. Alors ce soir, nous recevons encore une fois un invité qu'on a déjà eu d'ailleurs il y a quelque temps, le sociologue Emmanuel Bobaty, auteur d'un essai « Ne suis-je pas une féministe » paru dans la collection Libelle des éditions du Seuil. Le livre pose une question fondamentale et beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, qui peut aujourd'hui se réclamer légitimement du féminisme, à l'heure où les polémiques font rage autour de l'intersectionnalité, de la question trans, de l'affirmation du primat du biologique ou au contraire, de celle de la dissolution des frontières de genre. Alors, Emmanuel, le titre de ton livre, bien sûr tu ne l'as pas choisi par hasard. À quoi fait-il référence ? Ne suis-je pas une féministe ?
Alors, ce titre, effectivement, c'est une référence directe à une phrase bien connue dans le monde féministe et dans les études féministes, c'est « Ne suis-je pas une femme ?» qui est une phrase qui a été prononcée pour la première fois par Sojourner Truth, une ex-esclave noire à la Convention des femmes devant une assemblée de blanches, et qui a été repris ensuite, plus de 130 ans plus tard, par une des théoriciennes du Black Feminism, Bell Hooks, qui en a fait le titre d'un ouvrage bien connu. Et donc, c'est effectivement une référence à cette phrase qui finalement interpelle des féministes, en l'occurrence blanches, sur le droit à faire partie de ce combat et à être reconnues aussi comme faisant partie de cette lutte. Je l'ai mobilisé pour aussi décentrer un petit peu le débat, puisque c'est un essai qui porte sur les trans, et pour montrer qu'on retrouve des logiques similaires avec d'autres populations, d'autres contextes, qui ne sont bien sûr pas exclusifs les uns des autres.
Ok. Alors, dans ton bouquin, et d'ailleurs dans la quatrième de couverture, je ne sais pas si c'est toi qui est l'auteur de cette quatrième de couverture, mais tu fais une longue liste de celles et ceux qui sont exclus d'une partie du mouvement féministe. Est-ce que tu peux nous rappeler cette liste ? Tu parles des trans, des éventuellement des femmes qui portent le voile, d'une assez grande catégorie de personnes.
Oui, en fait, c'est un texte finalement sur les frontières du féminisme, sur qui a le droit ou pas, et selon qui d'en faire partie ou non. Et j'ai choisi quelques exemples, effectivement, de l'histoire féministe contemporaine, qui permettent d'aborder ce sujet-là, et qui est une liste qui n'est pas forcément exhaustive, mais dans cette liste, on trouve, par exemple, les lesbiennes, les femmes noires, les femmes musulmanes qui portent le foulard, ou encore les travailleuses du sexe. Et à travers ces divers exemples, encore une fois, et ça aurait pu être d'autres exemples, et voilà, c'est pas forcément historiquement exhaustif, mais de populations qui, à un moment ou à un autre, et qui ne sont par ailleurs pas exclusives les unes des autres, c'est très important de le rappeler, qui à un moment ou à un autre, donc, se sont trouvées marginalisées au sein du mouvement par des femmes blanches, par des femmes hétérosexuelles, par voilà, des femmes qui n'ont pas la même conception du travail, et qui se sont trouvées exclues du mouvement, ou même niées dans leur existence propre et dans leur propre expérience de la domination masculine.
Oui. Donc, depuis quelques années, et aujourd'hui avec une grande virulence, les féministes se déchirent autour de la question trans. Un livre à succès est paru qui s'intitule « Transmania, enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre » de Dora Moutot et Marguerite Stern. Ce livre est paru en avril 24. Pour ces auteurs, l'idéologie transgenre est en train de s'infiltrer dans toutes les sphères de la société. Elle se présente, cette idéologie, pense-t-elle, comme un simple mouvement pour les droits des minorités opprimées. Et pourtant, disent-elle, derrière ces apparences se trouve un projet politique néfaste qui s'apprête à bouleverser notre rapport au réel. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu réponds à ça?
Bon, moi, je vous avoue que je réponds pas vraiment à ça directement, tout simplement parce que c'est des discours déjà que l'on connaît depuis un certain temps. Hein. Ça fait quand même plus de 50 ans que ces mêmes discours sont portés dans certains pôles, hein, voilà, de l'espace de la cause des femmes par un nombre assez restreint de personnes, mais qu'on connaît. Donc voilà, un ouvrage très connu, par exemple, est paru en 1979 de Janice Raymond, qui est une professeure d'études en Women's Studies, en études, voilà, féministes, et qui porte à peu près finalement le même discours. Hein, voilà, la question de ces femmes trans qui viendraient coloniser les espaces féministes. Voilà, les femmes trans sont décrites comme des fausses femmes, au fond, qui restent des hommes, voilà, bon, du fait de la biologie. Donc c'est un discours qui est, voilà, qu'on connaît depuis assez longtemps. Il y a une histoire, notamment aux États-Unis, hein, de ces discours qu'on connaît bien maintenant. Donc, bon, ce qui est assez frappant, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup évolué, hein, ces discours, mais que depuis 50 ans, par contre, et c'est ça que moi je voulais vraiment montrer, c'est que, eh bien, depuis 50 ans, on a quand même un certain nombre de théoriciennes féministes, de chercheuses féministes et aussi de militantes qui ont produit énormément d'écrits qui permettent justement, eh bien, de discuter ces thèses-là et de les réfuter finalement, de voilà, d'interroger notamment, ne serait-ce que la question de la biologie qui est brandie donc par certaines, encore une fois, militantes. Puisque finalement, on voit bien que dans l'histoire contemporaine des combats féministes, finalement, la biologie, c'est quelque chose qui, justement, qui est extrêmement discuté, parce que c'est justement quelque chose qui est utilisé contre les femmes elles-mêmes pour les assigner et les réassigner continuellement à leur corps, à un destin reproductif, et finalement les priver de leur libre droit à disposer de leur corps. Voilà, c'était important pour moi de le réinscrire dans cette histoire, on va dire, dans une histoire longue des luttes féministes et justement de leur critique de l'argument biologique, entre autres.
Mais quand même, tu dis que ça date depuis 50 ans, ce discours, mais je trouve qu'aujourd'hui, il prend de l'importance. Il est beaucoup plus audible qu'il y a 50 ans, où je n'entendais pas ce genre de choses. Et là, ce que je trouve assez étonnant avec ce bouquin, donc, qui a quand même été extraordinairement médiatisé, c'est que ces deux autrices ont un passé qui peut ne pas faire douter de la sincérité de leurs engagements féministes. Hein. Je crois qu'il y en a une qui est une fémène, ou une ex-fémène, je ne sais plus laquelle, et l'autre qui a inventé les collages féministes, ces collages sur feuilles A4.
C'est la même.
Ah, c'est la même, oui. D'accord. Qui, sur les crimes, enfin sur les féminicides et...
Je crois que c'est Marguerite Stern.
Voilà. Et c'est... Voilà, comment... Comment, enfin, c'est pas toi, t'es pas dans la peau de ces personnes, mais comment on peut en arriver à ce que des femmes, enfin, dont on pouvait penser qu'elles étaient authentiquement, enfin, féministes, peuvent en arriver à des discours qui sont actuellement revendiqués en plus par des régimes d'extrême droite.
C'est quelque chose qui peut sembler paradoxal, en effet, le fait de militer pour les femmes et contre les trans, bon, ça peut sembler en effet être un paradoxe, sachant que c'est
trans.
De militer trans. Pour les femmes cisgenres, pour le féminisme, voilà, mais contre les trans et contre les femmes trans, et aussi contre les hommes trans, aussi d'une certaine manière.
Aussi contre. Alors justement, je me posais la question. C'est aussi parce qu'elle pourrait dire oui, on accepte les hommes trans, parce qu'en fait, ce sont des femmes, logiquement.
Oui, mais c'est pas exactement comme ça que ça se joue finalement. C'est toujours la masculinité qui va être finalement voilà cherchée dans un cas ou dans un autre. Donc finalement l'exclusion des trans ou la négation de leur existence, hein, puisque c'est ça, c'est souvent qualifié d'homosexualité refoulée ou d'effet de mode, hein, ce qui est une manière de nier l'existence même des trans. Voilà, les unes sont disqualifiées au motif qu'elles ont été des hommes et les autres au motif qu'ils en sont devenus. Alors qu'on pourrait aussi se dire l'inverse. Pour moi qui ai travaillé dans une perspective sociologique avec le concept de mobilité sociale, moi je vois plutôt l'autre côté, c'est-à-dire que je vois que effectivement ce sont des personnes qui ont toutes vécu en tant que femmes à un moment ou à un autre, voilà, et qui ont cette expérience justement toutes et tous. Mais pour en revenir à la question peut-être sur comment c'est possible finalement, en fait je pense que c'est important de se dire que ben voilà, il y a tout un espace de la cause féministe qui est extrêmement hétérogène. Il y a des femmes qui voilà, qui luttent pour le féminisme de différentes manières, y compris notamment à droite par exemple, même si on peut s'interroger justement sur ce terme même de féminisme, en fait dans cet espace de la cause, bah, il y a différentes prises de position qui sont pas les mêmes pour tout le monde et qui sont des combats féministes fondamentalement différents en fait entre féministes. Et effectivement là, ce que vous avez dit, c'est fondamental, c'est-à-dire qu'on voit en fait voilà une certaine convergence de certaines féministes qui n'est absolument pas nouvelle, hein, avec certains voilà certains pôles de l'extrême droite, hein, voilà, et qui portent pas du tout que sur le sujet trans finalement, qui portent aussi
enfin voilà la procréation,
exactement, oui, sur la procréation, mais aussi plus généralement sur les LGBT et sur voilà le port du voile, on le voit aussi, il y a beaucoup d'islamophobie aussi chez des personnes qui se revendiquent féministes, enfin voilà. Donc ça, bon, c'est déjà assez bien renseigné dans un certain nombre de travaux. Voilà, il y a par exemple le travail de Magali Della-Souda qui a publié récemment Les Nouvelles Femmes de Droite, hein, où ça pose une question fondamentale finalement, comment est-ce qu'on peut voilà être de droite et puis prétendre lutter pour les femmes, ça peut sembler contradictoire. Il y a différents espaces de la cause, différents pôles dans l'espace de la cause féministe, et aussi il y a différentes formes de lutte contre les trans dans cet espace. Et ça, c'est important de le dire aussi. C'est-à-dire que cet exemple-là, qui est extrêmement visible actuellement, cet ouvrage, effectivement, a été très médiatisé, n'est pas forcément représentatif de toutes les féministes, personnes qui se disent féministes, qui luttent contre les trans. Hein. C'en est un exemple, mais il faut savoir aussi que, eh bien, il y a des personnes qui se revendiquent féministes et de gauche qui luttent aussi à leur manière, d'une autre manière, contre les droits des personnes trans. Il y a aussi des féministes libérales, institutionnelles, voilà, qui portent aussi ces mêmes positions, hein, bon, de différentes manières, mais qui s'inscrivent aussi dans une lutte contre les droits ou l'existence des trans. Donc voilà, c'est important de le rappeler, ça, qu'il y a différents types d'engagements anti-trans qui peuvent se déployer.
Et oui, pardon,
je t'en prie.
Justement, tu consacres aussi dans ton bouquin, donc à propos de cette question trans, les manières d'envisager la biologie. Dans ces mouvements féministes anti-trans, il y a toujours les raisonnements en disant mais on ne peut pas nier la biologie, un homme ne sera jamais une femme ou une femme jamais un homme, ou je ne sais pas comment ça s'exprime. Or, il y a des approches de biologistes qui sont tout à fait différents. Est-ce que tu peux nous parler brièvement, hein, on n'a pas trop le temps, mais de Thomas Laqueur et de Anne Fausto-Sterling à propos de l'approche de la biologie?
Oui, en fait, moi je suis passé par effectivement un détour un peu historique. Thomas Laqueur, c'est un historien en fait, hein, qui est connu, c'est vrai, en études, dans les études sur le genre, pour avoir montré que, le modèle de la différence des sexes est finalement assez moderne, que c'est une invention relativement moderne, qui n'a pas toujours été là, que ça fait que quelques siècles finalement que la médecine et les sciences se représentent le sexe des individus comme étant binaire, comme se représentent les hommes et les femmes comme étant fondamentalement différents biologiquement, et que ce n'est pas quelque chose qui a toujours été. Que finalement, le sexe pouvait être avant conçu comme une échelle, les pénis, on considérait que les femmes avaient des pénis qui n'étaient pas descendus, il y avait tout un, une représentation médicale et biologique des corps comme étant des déclinaisons d'un même modèle, on va dire.
C'est ça. Et les femmes étant un modèle raté.
C'est ça.
Alors, la hiérarchie est restée, par contre, mais en tout cas, les corps ont été fortement différenciés dans quasiment toutes leurs composantes, d'ailleurs, hein, ça a été renseigné. Et effectivement, il y a un courant d'études qui est très, très intéressant à ce sujet, qui est un courant d'études féministes, hein, qui s'appelle la critique féministe des sciences, qui se développe depuis plus de 40 ans maintenant, hein, et qui est un courant d'études dans lequel on trouve différentes disciplines, et notamment des biologistes. Alors, une des figures les mieux connues, c'est Anne Fausto-Sterling, hein, qui est une professeure de biologie, et qui, elle, a beaucoup travaillé sur l'intersexuation et aussi sur les trans, et qui a montré qu'il existait en fait chez les individus une très grande diversité de configurations sexuées, et que d'ailleurs en médecine on ne considérait plus un seul paramètre, hein, pour définir le sexe des individus, puisqu'il y a à la fois des chromosomes, des taux hormonaux, l'apparence des organes génitaux, tout ça c'est difficilement réductible à un modèle binaire, puisque les hormones déjà c'est des taux, hein. Donc il y a tout un courant aussi d'études féministes qui s'est attaché à montrer justement que même si on parle de biologie, c'est pas interdit d'en parler, mais si on en parle, eh bien c'est pas si binaire que ça finalement. Et que la médecine, justement, s'évertue à essayer de faire rentrer les gens dans des cases qu'elle a contribué elle-même à créer, tout en sachant que ce n'était pas possible. Ça c'est effectivement quelque chose qui fait écho dans un contexte où beaucoup de féministes se revendiquent à nouveau de la biologie, alors même que dans l'histoire du mouvement, ça a été justement quelque chose dont beaucoup ont voulu s'affranchir pour échapper à une réassignation, à une forme de condition féminine qui serait biologique.
Et on a vu d'ailleurs des réactions violentes à propos de la procréation. Bon, il y a eu ce mini-scandale quand le planning familial a fait une pub, où on voyait un homme trans enceint. Ça a provoqué, une panique.
Oui, la question de la procréation, souvent, est présente, hein, dans les formes de panique morale. Et là, en l'occurrence, la question des droits reproductifs des trans s'est retrouvée vraiment au cœur de cette controverse. Mais ça, encore une fois, c'est quelque chose qui n'est... Je pense qu'il est important de déspécifier par rapport aux trans. En fait, c'est quelque chose, les droits reproductifs, qui à chaque fois suscite ce type de panique morale. Ça a été aussi le cas avec la PMA pour les lesbiennes en France il y a quelques années. En fait, hein, faire des enfants sans un homme, ça a suscité toute une polémique également, beaucoup de violence dans le débat public. C'est dans l'ouvrage ouvrage aussi, je parle de la question des droits reproductifs pour les femmes racisées, hein, par rapport aux femmes blanches, hein, parce que c'est vrai que finalement, on voit que les droits des femmes peuvent être entravés de manière qui peuvent sembler contradictoires, mais qui participent d'une même oppression. C'est-à-dire que, par exemple, dans les années 70, là où des féministes blanches en hexagone luttaient pour le droit à avorter, il y en avait d'autres qui, simultanément, des femmes à La Réunion, et ça a été très bien retracé par la sociologue Myriam Paris, luttaient pour avoir le droit d'enfanter, parce qu'elles étaient stérilisées de force, avortées de force, alors qu'elles étaient sous anesthésie, rentrées à l'hôpital pour d'autres, pour d'autres raisons. Sans leur consentement, évidemment. On voit qu'à une même époque, finalement, des femmes blanches luttent pour le droit à avorter, d'autres, des femmes racisées, luttent pour le droit à enfanter, mais en fait, c'est un seul et même combat dont il s'agit, et Myriam Paris le montre bien, c'est un combat pour la justice reproductive, c'est un combat pour le droit à disposer de son propre corps.
Absolument.
Comment on dit en français, quel qu'on soit, quoi, qui qu'on soit, enfin, je ne sais pas comment on dit, voilà.
Et là, en l'occurrence, l'affiche du planning familial affichait un homme enceint. Et donc là, c'était l'enjeu de la question du droit à enfanter pour les hommes trans, enceints. Et à d'autres moments, c'est aussi posé la question du droit à avorter pour les hommes qui est aussi entravé à de nombreuses reprises ces derniers temps.
Alors, selon toi, moi aussi, c'est des discussions que j'ai eues avec des gens, des choses qu'on peut lire dans une presse plutôt de droite, hein, faut bien le reconnaître, mais pas que. On a l'impression qu'il y a une espèce de peur à l'idée qu'il y ait une indifférenciation entre les gens, comme si c'était mon Dieu, mais on ne saura plus si les gens sont des hommes ou des femmes. Comme si cette panique anti-trans, était terrorisée par l'idée qu'on ne puisse plus différencier les gens, plus différencier les sexes. Moi, je l'ai beaucoup entendu. Une idée aussi que, comme s'il allait y avoir une espèce d'uniformisation, de neutralisation, que tous les gens seraient des petites unités. Ni homme ni femme, et que du coup, ça serait terrible, et puis qu'on perdrait aussi la possibilité du désir, ce qu'on entend, voilà.
Je pense que c'est important de peut-être distinguer ce type de rhétorique en général. Et les rhétoriques spécifiquement qu'on retrouve chez des personnes qui se disent féministes. C'est-à-dire que cette rhétorique-là de il y a plus de genre, tout le monde peut être ce qu'il veut être, etc., et qu'on retrouve dans la presse de droite, tous les médias de droite, c'est en fait une profonde inquiétude par rapport au modèle de la différence des sexes, à la hiérarchie. En fait, c'est chacune doit rester bien à sa place dans l'ordre du genre, qui est aussi évidemment un ordre hétérosexuel, fondamentalement, c'est indissociable, et les inquiétudes féministes qui ne sont pas tout à fait du même ordre. Chez les féministes, on perçoit très bien, et d'ailleurs beaucoup l'écrivent ou le disent, cette crainte finalement que s'il n'y a plus de genre, comment est-ce qu'on peut lutter contre le patriarcat, finalement, c'est ça au fond la question. Comment on peut encore se mobiliser contre le patriarcat si on ne sait plus contre qui on se bat. Ça, c'est encore une autre histoire. Et moi, je pense que cette peur, bien sûr, elle est liée à la précarité des mouvements féministes. On le sait que rien n'est jamais acquis. On le voit tout le temps, que les droits peuvent être repris. Et que l'égalité, de toute façon, n'est pas effective. On le sait. Cette peur, elle est légitime. Elle a un sens. Cependant, j'ai tendance à penser que, je l'ai écrit en effet, que c'est aussi parfois se tromper d'ennemi, hein, que l'ennemi finalement c'est les rapports sociaux et de pouvoir, le patriarcat, mais aussi d'autres rapports sociaux qui sont enchevêtrés avec lui, et que voilà, penser que les trans c'est la menace, bon, c'est quand même quelque chose, voilà, qui revient à accuser une population minorisée d'être l'oppresseur, mais c'est quelque chose qu'on retrouve aussi avec d'autres populations. C'était très important de déspécifier encore une fois pour moi ce sujet, c'est-à-dire que à d'autres moments, voilà, et dans d'autres contextes, ou même aujourd'hui dans le même, certaines féministes considèrent que ben voilà, les femmes qui portent le voile oppressent de par leur existence même, voilà, sont en elle-même un vecteur d'oppression pour elle en tant que femme. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve, ce type de rhétorique, et c'est une manière de, voilà, aussi de diviser les populations minorisées entre elles. Bon.
Alors, brièvement, on a dans les années 90, si ma mémoire est bonne, oui, le coup de tonnerre de l'arrivée de la pensée de Butler, qui aussi maintenant est extrêmement décriée. On parle toujours de Judith Butler, hein, constamment, enfin constamment non, mais comme étant l'une des, comment dirais-je, des personnes qui sont responsables de cette déconstruction abominable qu'on ne sait plus du tout où on en est. Voilà, est-ce que tu... C'est très très difficile, mais en une minute, là, qu'il nous reste pour cette partie, nous dire ce que Butler a amené...
Alors Judith Butler, pour moi, alors effectivement, c'est une des penseuses des théories queer, enfin une des mieux connues en tout cas, hein, même si c'est pas elle qui a prononcé le mot pour la première fois. Je crois que, et elle le dit elle-même, hein, que son objectif n'était pas de dire qu'il n'y a pas de genre, que le genre ça n'existe pas. En fait, elle a une approche du genre qui est une approche voilà beaucoup empruntée à effectivement Derrida, la déconstruction, à Foucault, et c'est une approche qui on va dire effectivement s'intéresser à la frontière qui sépare les hommes et les femmes, les homos et les hétéros, pour montrer que cette frontière, elle est poreuse. Elle est plus poreuse que ce qu'on pense, et que finalement, les catégories n'existent que les unes par rapport aux autres. Et qu'elles ne sont pas fondamentalement hermétiques, binaires et opposées, mais qu'elles se co-construisent, en fait. Qu'elles coexistent et que l'une existe uniquement par rapport à l'autre. Bon, c'est un des apports de Butler, mais il y en a beaucoup d'autres. Et un des apports, c'est de montrer aussi que le genre est performatif, hein, évidemment. C'est-à-dire que, rien ne préexiste finalement à ce rapport social qu'est le genre. Rien ne lui préexiste. Il existe parce qu'on l'assigne. On dit c'est un garçon, c'est une fille, ça y est. Et puis ensuite, on nous assigne toute notre vie à un statut. Mais finalement, par cette phrase, on est assigné. Et ce n'est pas le corps qui lui-même nous assigne, c'est les significations sociales qu'on lui donne. Et ça, c'est un des apports fondamentaux de Butler, dont l'intention n'était absolument pas de dire qu'il n'y avait plus de patriarcat, de domination. Voilà, c'était... et elle le dit, elle le répète.
On va faire notre coupure musicale. I would be complex, I would be cool. They'd say I played the field before I found someone to commit to. And that would be okay for me to do. Every conquest I had made would make me more of a boss to you. I'd be a fearless leader, I'd be an alpha type. When everyone believes ya, what's that like? I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I'd get there quicker if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again, cause if I was a man, then I'd be the man. I'd be the man, I'd be the man, I'd be the man, I'd be the man. Put in the work,
shake their heads and question how much of this I deserve. What I was wearing, if I was rude, could I be separated from my good ideas and power moves? And they would toast to me, oh, let the players play. I'd be just like Leo in Saint-Tropez. I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I'd get there quicker if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again, 'cause if I was a man, then I'd be the man. And getting bitches and models, and it's all good if you're bad, and it's okay if you're mad. If I was out flashing my dollars, I'd be a bitch, not a bother. They paint me out to be bad, so it's okay that I'm mad. I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I'd get there quicker if I was a man. You know that. And I'm so sick of them coming at me again.
Just checking. Was that last take more what you had in mind?
Pretty good. Could you try to be sexier? Maybe more likable this time?
Okay. Okay. No problem.
By the way, excellent work over there, Lauren. That was astonishing.
Thanks.
Le grand soir du mardi. Nous recevons aujourd'hui, ce soir, le sociologue Emmanuel Bobaty, auteur d'un essai « Ne suis-je pas une féministe ?» paru à la collection Libelle, édition Le Seuil. Donc, deuxième partie de notre rencontre. Je souhaiterais que nous parlions du concept d'intersectionnalité. Alors, pour rappel, pour nos auditeurs, en 1989, la juriste afro-américaine Kimberlé Crenshaw a inventé le terme intersectionnalité pour désigner le cumul de plusieurs discriminations racistes et sexistes, dont sont victimes les femmes noires. Cette approche, arrivée en France il y a environ une dizaine d'années, est combattue par les défenseurs de l'universalisme républicain, porteurs d'un projet d'émancipation collective fondé sur la lutte des classes et le principe de l'égalité sociale. Ils dénoncent des revendications dites identitaires, mots-clés, incompatibles de leur point de vue avec un combat à visée universaliste. Et du coup, je souhaiterais parler d'un auteur qui s'appelle Laurent Bouvet, universitaire et essayiste, qui déplore le fait que, je cite, l'intersectionnalité usurpe la fonction d'émancipation qu'occupait auparavant la classe ouvrière dans la lutte des classes. Je continue. Il s'agit bien plutôt, dit-il, de mettre l'accent sur ce qui est commun plutôt que de diviser et même de dissoudre l'approche universaliste de la lutte des classes contre le capital, en désignant, dit-il, la majorité mâle, blanche, hétérosexuelle, occidentale, etc., comme les instruments de domination, ce qui permet de reléguer la lutte et la dialectique sociale au second plan. Qu'en penses-tu ?
Bon, ça c'est un propos qu'on retrouve assez souvent, assez classique, hein, même chez certains sociologues, hein, et notamment cette idée que le concept d'intersectionnalité et le fait de parler de genre et de race en fait viendrait menacer en quelque sorte le prisme d'analyse du monde social en termes de classe. De classe sociale avant tout. Bon. Cette idée que la classe sociale serait primaire par rapport à d'autres rapports sociaux. Or, cette réflexion sur l'intrication des rapports sociaux, en fait, évidemment, elle inclut la classe. Hein, déjà, avant Kimberlé Crenshaw, il y avait une sociologue française, Danielle Cargoat, qui, elle, travaillait sur les femmes ouvrières et qui articulait, justement, ça a été une des premières à le faire, articulait vraiment genre et classe. En fait, hein, qui montrait que l'expérience des femmes ouvrières n'était pas la même, que l'expérience ouvrière n'était pas la même pour les femmes et pour les hommes, et avec une approche qu'elle appelait pas intersectionnelle, mais qu'elle appelait consubstantielle, qui est un petit peu un synonyme maintenant d'intersectionnalité. Dans un tout autre contexte, donc plutôt états-unien, marqué par l'histoire de la ségrégation raciale, c'est une réflexion qui a été portée plutôt par le black feminism au cours des années 80. Différentes autrices, chercheuses, Angela Davis, Patricia L. Collins, Audre Lorde, etc. Et donc Kimberlé Crenshaw, une juriste qui a finalement formulé ce concept. Et en fait, ce concept, ce qui est important de dire, puisque vous avez mentionné la fameuse question de l'identité, qui fait peur, c'est que dans un des articles, il y a deux articles fondateurs un peu de Kimberlé Crenshaw où elle explicite le concept. Et en fait, dans ces articles, ben justement, elle propose en fait ce qu'elle appelle une critique des politiques de l'identité, justement. De montrer que c'est pas une question d'identité, en fait, c'est une question de rapports sociaux. Qui vont se façonner les uns les autres. C'est-à-dire que dans le monde social, on ne peut pas les séparer de toute façon. Et ce qu'elle invite à faire, à la fois d'un point de vue politique et sociologique, c'est à penser vraiment l'articulation. C'est-à-dire que ce n'est pas une addition. C'est pas on est femme plus noire. C'est que l'expérience que l'on fait en tant que femme noire de la domination masculine est qualitativement différente de l'expérience que l'on en fait en tant que femme blanche. Et elle, à l'époque, elle travaille sur la question des violences conjugales, et le droit antidiscriminatoire, Et elle explique comment cette expérience des violences conjugales pour les femmes noires, est différente parce que, pour plusieurs raisons. Et d'abord parce que souvent le compagnon est un homme noir et que il y a une forme de loyauté raciale qui se joue dans le foyer qui n'existe pas en fait dans les couples blancs. Et que du coup pour elles, dénoncer leur conjoint, ça reviendrait à justement devoir quitter cet espace justement où elles se trouvent protégées du racisme, l'espace familial, qui est investi d'une toute autre dimension qu'elle n'a pas pour les blanches en fait. Et elles savent très bien aussi que leur conjoint serait plus sévèrement sanctionné qu'un homme blanc par ailleurs. Et par ailleurs, aller à la police quand on est une femme noire, c'est pas forcément facile non plus. Donc, elle montre que c'est une expérience différente, qualitativement différente, et que c'est vraiment une question d'articulation de rapports sociaux et pas une question d'identité, au fond.
Alors, pour les opposants en intersectionnalité, une politique d'émancipation est soumise à l'impératif d'universalité. Et c'est précisément pour cette raison que la lutte pour l'égalité ne peut pas intégrer les minorités. Précisément parce qu'elles sont des minorités. C'est tout à fait paradoxal.
Alors, disons que ça dépend en fait déjà de la définition que l'on a de la... Alors oui, c'est paradoxal, mais ça dépend de la définition qu'on a de la minorisation. Puisque... Minoriser, pour moi, c'est un terme qui peut inclure, en fait, des femmes blanches, cisgenres, hétérosexuelles.
Oui, bien d'accord.
Puisque pendant, enfin, je veux dire, c'est quand même les femmes ont été jusqu'à il y a quand même peu de temps en France considérées d'une certaine manière comme étant mineures.
Oui,
des citoyennes passives, comme on disait avant la Révolution.
Oui, 64, non ?
C'est une conception de la minorisation qui est peut-être une conception numérique. Voilà, ça c'est. Il y a différentes conceptions de la minorisation. Une sociologue française, Colette Guillaumin, qui a travaillé sur ce concept-là de minorité, et qui en a produit un peu une discussion critique. Ça dépend de l'acception qu'on a de ce que c'est la minorisation. Donc voilà, en fait, les femmes cisgenres, blanches, hétérosexuelles peuvent être minorisées, en fait, par rapport aux hommes. Et c'est pas parce qu'elles représentent la moitié de la population qu'elles ne peuvent pas l'être.
Oui, mais en fait, là, ce dont je parlais, c'était de l'impératif d'universalité. C'est-à-dire cette vision très française de ce que c'est que la lutte des femmes. Hein. Le féminisme doit être inscrit dans un principe d'universalité, d'égalité, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas aux États-Unis, hein, puisque c'est plutôt autour du racisme que ça s'articule. Tu vois, et donc c'est vraiment une idée qui consiste à dire que au nom de ce principe d'universalité, on ne peut pas s'intéresser aux minorités. On ne peut s'intéresser justement qu'à des questions de lutte des classes, etc. C'est ça la question que je souhaitais aborder avec toi, tu vois. C'est ça. Donc voilà. C'est. D'ailleurs, dans la même logique, si les mouvements féministes ont été raillés, discrédité par de nombreux hommes, cela peut-il s'expliquer par le fait que la lutte des femmes pour l'égalité et contre les discriminations est perçue, elle aussi, comme identitaire et non universaliste, voire accessoire ou négligeable. Tu me suis ?
Mais je pense qu'elle l'est pour beaucoup d'hommes, perçue comme ça.
Elle l'est.
Donc,
on est d'accord.
Donc, bon, à partir de là, voilà. Après, c'est une prise de position, en fait, d'imaginer que la lutte peut être la même pour tout le monde. C'est une position en soi. C'est-à-dire que ça revient à la question de qui définit les priorités politiques du mouvement. Et c'est ça, en fait, l'intersectionnalité, c'est aussi une réflexion politique. Hein. C'est la particularité aussi de ce concept, c'est que ça vient d'un mouvement. Politique, ça s'est construit par le mouvement, alors qu'en France, cette réflexion sur l'articulation des rapports sociaux, ça s'est construit par la sociologie plutôt. Mais ça part du mouvement, c'est-à-dire, c'est les priorités de qui sont défendues à un instant T par un mouvement. Alors, en l'occurrence, le mouvement féministe, mais c'est valable aussi pour le mouvement antiraciste, puisque finalement, le black feminism s'est construit sur une critique des deux. Le mouvement antiraciste, voilà, les priorités politiques étaient pensées par et pour les hommes. Et les femmes noires n'y trouvaient pas de place. Elles ne trouvaient pas non plus de place dans le mouvement féministe qui était pensé par et pour les blanches, pour leur priorité à elles, à un instant T. C'est valable aussi dans d'autres contextes. Par exemple, dans ce texte, moi je prends l'exemple des lesbiennes en France dans le mouvement des années 70. Il y avait une très forte mobilisation pour l'accès à l'IVG, la contraception. Bon. Beaucoup de lesbiennes ont milité à ce moment-là pour accéder à ces droits. Et finalement, quand elles ont commencé à demander que les femmes hétérosexuelles luttent aussi pour les leurs en tant que lesbiennes, c'était compliqué. Il n'y avait plus grand monde. À ce moment-là, dans beaucoup d'espaces, les droits des femmes étaient pensés par et pour les hétérosexuels. C'est la question de qui définit les priorités à un instant T. Et ça, c'est pas parce que un mouvement lutte contre les rapports de domination, etc., qu'il n'est pas traversé par certains rapports de pouvoir. Et le mouvement féministe non plus n'y échappe pas.
Oui, forcément, on est dans une idéologie, une idéologie dominante qui pense des espaces, qui les distribue, Du coup, l'enjeu central aujourd'hui, pour les femmes comme pour les hommes d'ailleurs, les hommes de bonne volonté évidemment, consiste-t-il à repenser le concept de féminisme en prenant en compte les discriminations plurielles pour refonder dans un deuxième temps le concept d'universalisme, voire d'humanité ?
Alors,
c'est une question.
C'est une vaste question.
Vaste question. Oui.
Alors, il me semble que c'est quelque chose qui est poursuivi hein, par beaucoup de féministes aujourd'hui. Hein. Beaucoup de, notamment, enfin, il y a un certain nombre de travaux qui le montrent, hein, que beaucoup de jeunes féministes parlent de féminisme intersectionnel, par exemple. Voilà, hein, que c'est des questions qui sont tout à fait présentes et que, voilà, hein, il y a des conceptions du féminisme, en fait, qui évoluent au fil des générations féministes, tout en conservant un certain héritage, mais qu'on assiste quand même à des transformations au fil des générations, de la conception même du féminisme et de l'amplitude de cette cause, en fait, de qui ça concerne, qui ça inclut, et comment. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est déjà à l'œuvre, en fait. Mais ça implique peut-être de repenser le terme même de féminisme, mais en même temps, féminisme intersectionnel veut dire ce que ça veut dire.
Oui. Alors, tu écris dans ton livre, j'ouvre les guillemets, inclure ne suffit pas, il faut repenser le cadre lui-même avec les personnes incluses. Est-ce que tu peux nous expliquer cette phrase que je... Voilà.
Oui, en fait, c'est le propos un peu conclusif de ce texte qui est en fait une discussion critique du concept d'inclusivité, puisque ça aussi, c'est un terme qui est beaucoup utilisé, féminisme inclusif, qu'on entend énormément. Or, c'est un terme qui est à double tranchant, puisque... voilà, et c'est quelque chose que j'ai écrit aussi dans ce texte, ce savoir incluse, c'est savoir aussi qu'on pourrait ne pas l'être. Puisque bon, c'est une critique qui est portée notamment par une philosophe féministe qui s'appelle Sarah Ahmed, qui elle a travaillé sur l'inclusivité, et raciale en l'occurrence, et qui dit ben finalement... que l'inclusivité, même si c'est de bonne volonté, c'est super, ça va forcément reconduire certaines formes d'altérisation. Par le fait même de dire qu'on inclut, sous-entendu, les autres, en fait. Mm-hmm. Et que le fait d'inclure des personnes racisées, racialisées comme non blanches, dans un cadre qui a été pensé par et pour des blancs, et qui est fondamentalement blanc, et essayer d'imposer les priorités politiques des blancs, voilà, dans un mouvement où il y a des personnes racisées, ça peut non seulement être pas pertinent pour ces personnes qui ont été, entre guillemets, incluses, mais ça peut aussi être difficilement soutenable, en fait. Et donc, c'est valable, en fait, pour, finalement... beaucoup de groupes, hein, ce constat, c'est-à-dire que ce qui importe, c'est aussi de reconsidérer le cadre lui-même, qui n'est pas neutre, ce cadre, que ce soit le cadre de l'engagement ou autre, hein, mais c'est un cadre qui est toujours situé socialement et qui est le plus souvent blanc et le plus souvent hétérosexuel et évidemment le plus souvent cisgenre.
Faut changer de logiciel, en fait.
Mais ça se construit, un logiciel.
Oui, on est bien d'accord.
Et il y a, je trouve, fondamentalement, une question de langage. Moi, je me suis souvent interrogée sur le terme féminisme, qui, d'une certaine manière, m'a jamais satisfait complètement. J'ai l'impression que par l'utilisation de ce mot, je comprends pas très bien ce mot, pour te dire la vérité. J'ai l'impression que ce mot souligne, ne situe que du côté des dominés, et souligne aussi une dualité que par ailleurs, enfin une binarité qu'on peut par ailleurs remettre en question. Enfin, je ne suis personnellement pas très à l'aise avec ce mot, si j'ose le dire. Voilà. Qu'est-ce que tu... Voilà. Comment ressens-tu, toi, ce mot ?
Alors, je suis pas spécialiste de l'histoire de ce mot, mais il me semble qu'à la base, il ne vient pas justement des féministes. Voilà, qu'il a été employé dans le champ médical ou même à des fins plutôt masculinistes, on va dire. Mais en tout cas, il a une signification très forte, je pense, pour beaucoup de personnes de femmes, voilà, qui ont milité et qui militent toujours pour la cause. Je pense aussi que d'autres termes sont employés. Hein, voilà, il y a des personnes qui parlent de voilà, de lutte contre le patriarcat, d'anti, voilà, patriarcat. Bon, il y a, on trouve différents termes qui sont mobilisés. Cependant, je dirais que moi, en tout cas, dans mon travail jusqu'à présent, je n'ai pas rencontré. Bon, c'est un travail de sociologie contemporaine, hein, donc voilà, mais particulièrement de gêne ou même de ou autre sur par rapport à ce terme, même si finalement, il peut être connoté, voilà, il peut rappeler aussi à la catégorie, voilà, à une certaine catégorie, femme, etc. Mais que le problème vient surtout, en fait, non pas de la catégorie féminisme, mais de la catégorie femme.
Oui,
en fait.
Tout à fait.
Et que c'est ça aussi une des choses très très importantes à dire sur ce sujet, c'est que au fond, on entend très souvent et d'une manière et ça part d'une très très bonne volonté. Hein, je veux dire l'idée que ben voilà, les femmes trans sont des femmes. Point. Il n'y a pas à discuter. Très bien. Alors bien sûr, mais cependant. Je pense que s'accrocher à la catégorie femme comme argument politique premier, ou même argument scientifique, voilà, n'est pas forcément la solution au problème, on va dire. Parce que, si on regarde justement cette histoire contemporaine des féminismes, et ben on se rend compte que beaucoup de personnes, et là je parle même pas des trans, hein, faut décentrer hein, la question trans en fait, beaucoup de personnes, de femmes se sont trouvées de fait exclues de cette catégorie, hein, ne suis-je pas une femme, c'est ça que ça veut dire,
oui.
Se sont vues refuser le titre, et d'autres ne voulaient pas de cette catégorie, et puis s'y sont vues réassignées de force, ou alors... Mmh. Se sont vus accusés de trahison comme certaines lesbiennes hein, en France à une époque où voilà notamment Monique Wittig disait les lesbiennes ne sont pas des femmes
oui.
puisque elles s'affranchissent dans la sphère domestique sexuelle conjugale d'un homme quoi
ça,
elles ne sont pas soumises à l'appropriation privée ouais. par
c'est profondément idéologique
et donc finalement voilà elles ont été excusées ces lesbiennes là à cette époque là pour certaines d'être trop sectaires ce qui est un terme souvent utilisé à l'encontre des trans aujourd'hui. Donc finalement, si on peut se voir refuser le titre, si on peut se voir rappeler à cette catégorie ou accusé de trahison, y compris quand on est une femme cisgenre, je suis pas sûr que finalement cette catégorie femme soit finalement si pertinente que ça pour penser le féminisme en fait. Donc voilà, finalement brandir cet argument là pour à propos des trans, c'est bien sûr utile de rappeler que les femmes trans sont des femmes, évidemment. Mais on peut aller plus loin en repensant plutôt à l'échelle du sujet politique du féminisme et de qui et des frontières du féminisme et de cette catégorie de féminisme en fait qui en fait déborde très largement la catégorie femme en réalité.
Oui, bien sûr. Mais on a effectivement le terme, la catégorie femme est problématique. Est-ce que la catégorie homme l'est aussi? On a
surtout que le pendant du féminisme, c'est le masculinisme
oui.
quand même. Et c'est des conceptions qui sont diamétralement opposées aussi.
Il y a des trucs bizarres sur le plan du langage, effectivement.
Oui. Mais disons que en fait, on continue de fonctionner avec ces catégories parce que c'est les seules que l'on a, je crois. Enfin, on en a d'autres maintenant, on est non-binaire, etc. Mais quand on dit non-binaire, on est rappelé au fait que c'est binaire. Non, la binarité, ça rappelle la binarité finalement. Et même si c'est une alternative possible pour beaucoup de gens, queer aussi, voilà. Donc, mais ce qui est important de dire, c'est que voilà, il y a les catégories. Il y a des catégories de fait de la pratique, du langage, du quotidien, en fait, où on continue de faire avec ces catégories parce que c'est compliqué de faire autrement. Mais il y a des gens qui essayent de faire autrement, hein, qui produisent des travaux là-dessus. Et il y a ce qu'on peut faire analytiquement, c'est-à-dire que le fait de continuer à fonctionner dans le langage avec certaines catégories parce qu'on n'arrive pas encore à faire autrement ne veut pas dire qu'on peut pas analyser le monde social différemment. Et ne veut pas dire que scientifiquement, analytiquement, on peut pas penser en fait, au-delà en fait, de cette binarité, tout en continuant de penser, bien sûr, les hiérarchies fondamentalement structurantes, le patriarcat,
etc. Ouais.
Bien sûr, la domination. Mais on peut penser analytiquement au-delà, parce qu'on sait très bien, y compris avec l'intersectionnalité, que les hiérarchies, elles sont complexes et elles ne sont pas binaires. Au contraire, elles sont multidimensionnelles. Des rapports sociaux, il y en a plusieurs, et ils sont présents dans plein de dimensions de la vie sociale. Donc voilà, de fait, le monde social n'est pas binaire, mais eh bien, dans le langage et dans le quotidien, on continue de fonctionner avec les catégories que l'on a, mais qui ne sont pas, qui ne sont finalement pas une fatalité.
Oui. Mmh. D'ailleurs, pour conclure, tu écris dans ton ouvrage où le sujet politique du féminisme déborde le sujet femme. Ça nous a paru extrêmement intéressant.
Voilà.
On te remercie beaucoup.
On te remercie, Emmanuel. Merci. On rappelle le titre de ton court livre, Ne suis-je pas un tiret féministe, donc au seuil, dans la collection Libelle. Et merci, Frédéric.
Merci,
Emmanuel. Merci. Et on se retrouve dans un mois.